Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Conversation Pro. Conversation Pro est un podcast où vous entendrez le retour d'expérience de professionnels qui ont su saisir les opportunités pour évoluer dans leur carrière. Vous découvrirez les outils, les stratégies, astuces qu'ils ont utilisées et qui pourraient vous aider à votre tour pour atteindre vos objectifs professionnels. Je suis Vanessa, ingénieure, entrepreneur sociale et passionnée de développement personnel et professionnel. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans Conversation Pro, le podcast pour toutes les personnes à la recherche d'épanouissement et de réussite professionnelle. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fatimatou Ousmanou, cofondatrice et responsable développement chez TapTapSend Cameroun, une société de transfert d'argent vers l'Afrique. Bonjour Fatimatou.
Bonjour Vanessa, merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir accepté à pied levé mon invitation. On s'est rencontrés la semaine dernière et aujourd'hui nous avons cette conversation, c'est vraiment génial. Fatimatou, peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs?
Très bien. Alors, je suis Fatimatou Ousmanou, j'ai 29 ans, je suis franco-camerounaise. Je suis née, j'ai grandi en France, mais j'ai toujours une attache très, très, très forte avec mon pays, le Cameroun. Je suis mariée en Sénégalais. J'ai grandi entourée de plusieurs types de diasporas différentes et j'ai toujours eu à cœur d'avoir un impact positif pour le continent africain. Et ça se traduit dans tout mon parcours professionnel.
Merci pour cette présentation. Effectivement, Fatimatou, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette conversation, que tu es vraiment engagée pour l'Afrique, en tout cas pour le rayonnement de l'Afrique, et ça se voit effectivement à travers ton parcours dont on va parler dans les prochaines minutes. Donc, tu as un parcours très admirable. En effet, à seulement 29 ans, tu as été chef de projet innovation sociale chez Orange. Plus tard, tu as rejoint Bondinov en tant que chef de projet incubation, puis responsable partenariat, communication et réseau. Et ensuite, tu as pris la tête de la communication de cette entreprise. Il y a un peu plus d'un an, tu prends la tête de TapTapSend Cameroun, dont tu t'occupes aujourd'hui du développement. Ma première question pour toi, c'était de savoir quels sont les critères qui ont guidé tes choix professionnels jusqu'ici.
Alors, pour être totalement honnête et transparente, quand j'ai mon bac à la fin de mes études et qu'il fallait penser aux études secondaires, j'ai toujours aimé tout ce qui est relations internationales, sciences politiques, etc. Du coup, j'ai décidé de faire des études de sciences politiques à la fac. Et du coup, il y avait un tronc commun en droit. Donc moi, mon père est juriste. Donc du coup, j'ai fait une première année de droit. Et puis, j'ai été surprise de valider ma première année facilement. Et influencée aussi par mes parents, je me suis dit, pourquoi pas rester en droit ? Sauf que la deuxième année, c'était une catastrophe. Mais pas du tout, parce que c'était que des matières juridiques. Et tout ce que j'aimais, tout ce qui est lié au droit constitutionnel, à l'histoire, aux relations internationales, n'était plus présent. Donc, je me suis réorientée en sciences politiques, comme je voulais le faire au départ. Et ces études-là m'ont permis à moi d'avoir une belle approche, une meilleure approche du monde. Ça m'a appris à réfléchir, mais à réfléchir avec le bon angle, à comprendre comment le monde est constitué, les influences, comment les relations internationales se structurent et puis comment aussi l'Afrique a un potentiel et un véritable rôle à jouer dans les prochaines années et décennies qui arrivent. Et puis, ça m'a aussi permis de me reconnecter aussi d'une première manière avec mon continent. Et du coup, lorsque j'ai terminé ma licence en sciences politiques, j'ai intégré une école de commerce parce que j'étais à la recherche de quelque chose de plus pratique. Donc, comme je disais, j'ai appris à réfléchir, j'avais l'aspect théorique, mais je ne savais pas faire. Donc, j'ai fait un premier stage avant d'intégrer mon école à l'ambassade du Cameroun. Et là, j'ai fait tous les services de l'ambassade en passant par le parti consulat et toute la partie maintenant ambassade, relations avec l'UNESCO, etc. Et moi qui jugeais toujours assez négativement le personnel qui travaille à l'ambassade, en étant à leur place, j'ai compris qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué et complexe qu'on ne le pense, qu'ils avancent avec des moyens qui sont beaucoup plus restreints et qu'il y a énormément de choses à faire, ne serait-ce que déjà à leur échelle. Alors, imaginons à l'échelle du Cameroun. Donc, j'ai ensuite intégré une école de commerce, mais une école de commerce un peu différente, puisqu'elle s'appelle 3A, donc pour Afrique, Amérique, Asie, et qui était vraiment tournée autour du développement des pays émergents. Du coup, l'idée de cette école de commerce, c'est donc une école de commerce classique, mais la plupart des thèmes d'études sont tournés autour du développement durable et avec toujours parfumer un parfum africain ou d'Amérique latine, du moins d'un pays émergent. Et c'est là que j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat et l'innovation sociale. Et que je me suis rendu compte que pour soigner nos maux, en Afrique, ce n'était pas l'aide au développement comme on le pensait, comme je l'apprenais également en sciences politiques, mais plutôt l'entrepreneuriat, la création de valeurs et d'entreprises qui pouvaient faire changer les choses sur le continent africain. Et ensuite, ça s'est traduit dans toutes mes expériences professionnelles. Mais l'idée est née un peu de tous ces constats que j'ai pu faire dans mon parcours académique et mes différents stages.
C'est très intéressant d'avoir cet éclairage parce que du coup, ça explique également, principalement, les choix que tu as fait par la suite. Donc, on voit qu'il y a une cohérence, il y a un fil rouge. Donc, t'es vraiment porté sur tout ce qui va toucher l'Afrique, l'entrepreneuriat, l'innovation sociale. Et d'ailleurs, à ce titre, je voulais te demander, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi une entreprise responsable ?
Alors, c'est une très bonne question parce que je pense qu'il n'y a pas une vraie définition claire de ce que c'est qu'une entreprise responsable. Pour moi, la chose la plus importante, lorsqu'on crée une entreprise, quelle qu'elle soit, on doit d'abord répondre à un besoin. Donc, ça veut dire qu'il doit d'abord avoir un problème pour qu'une entreprise naisse. Et c'est que lorsqu'on résout un problème qu'on parle d'entreprise. Donc, on parle qu'on a créé quelque chose et donc on parle d'entreprise. Pour qu'on parle d'entreprise responsable, il faut que pour moi, le besoin, ce soit un besoin qui soit réellement impactant. Par exemple, si mon vernis ne tient pas pendant 2 jours, ce n'est pas un besoin qui est important, vital ou impactant pour mon avenir de créer une solution avec un vernis qui va tenir pendant 7 à 8 jours, par exemple. Du coup, l'idée pour moi d'une entreprise responsable, c'est une entreprise qui répond à un besoin à fort impact. Et cet impact, on le voit tous les jours, au quotidien, ça peut améliorer le quotidien et la vie des gens. Maintenant, pour moi, entre créer une entreprise en Afrique ou qui a un impact en Afrique, parce qu'il y a tout à faire et parce que créer une entreprise en Afrique, c'est créer de la valeur et c'est créer de l'emploi, pour moi, toute entreprise qui se développe sur le continent africain est une entreprise responsable. Donc, voilà, pour moi, la responsabilité, elle part du fait qu'on crée de la valeur et qu'on apporte et qu'on injecte de l'argent dans l'économie africaine. Donc, à partir de là, on a déjà un impact fort et donc, on est une entreprise responsable. Donc, moi, avec l'angle africain et le fait de créer en Afrique, pour moi, l'aspect responsabilité est différent de celui de créer une entreprise dans un pays occidental où il y a déjà... la plupart de ces besoins sont déjà soulevés.
Ok, donc on peut comprendre aussi que c'est vraiment la recherche d'impact qui te drive en fait, qui a motivé tes choix jusqu'ici.
Bah clairement, c'est ça. En fait, je me suis toujours dit, je veux pas me lever le matin et ne pas savoir pourquoi je fais les choses. Pour moi, vraiment, la chose la plus importante, c'était d'avoir un impact, peu importe, dans tout ce que je fais, que ce soit... à travers mes expériences professionnelles, que ce soit à travers mes expériences associatives, que ce soit dans le cadre de mes stages, ça a commencé dès le stage, hein, que ce soit dans le cadre de mes différentes expériences actuelles. Donc, la notion d'impact, elle a toujours été importante. Je pense que c'est important pour notre génération d'avoir une vision, et cette vision-là, elle doit guider la plupart de nos choix. Et lorsqu'on a une vision, c'est beaucoup plus simple et plus clair de prendre les bonnes décisions et de choisir les bonnes orientations. Et moi, ma vision, elle est guidée par le fait d'avoir un impact positif sur le continent africain. Et qui dit avoir un impact positif sur le continent africain, qui est la terre-mère, c'est avoir un impact positif sur sa planète et bâtir un monde meilleur par essence. Donc du coup, j'ai toujours été guidée par ça. Parfois, dans mon parcours, j'ai été amenée à avoir des expériences professionnelles qui m'ont éloignée de ma vision, mais j'ai toujours su rebondir et me rediriger vers quelque chose où j'avais vraiment de l'impact pour l'Afrique. Parce que pour moi, je pense qu'on peut tous avoir, on a tous des combats à notre échelle, et ces combats, ils peuvent être totalement différents, mais c'est important de connaître quel est son combat. Par exemple, lorsque j'ai fini mes études supérieures, je cherchais du travail et j'ai un peu galéré. En fait, j'ai fait une année d'alternance. Ma dernière année de master, j'étais en alternance chez Orange. Et ensuite, ils m'ont gardée un petit peu. Mais malheureusement, pour des questions financières, en fait, Orange ne recrutait pas sur les fonctions support. Et du coup, on avait fait porter mon contrat par une autre entité, etc. Bref, c'était très complexe pour pouvoir me garder malgré la volonté de mes différents managers. Du coup, il a fallu que je recherche du travail. Et à cette époque-là, tu sais, quand tu sors d'école ou quand tu as une très belle expérience précédemment, tu as l'impression que tout le monde t'attend, en fait, qu'on n'a plus toi sur le marché, du tout. Et du coup, j'ai eu 2 mois, enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais j'ai eu 2 mois où je n'avais pas de travail. Et puis, mon copain de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, chantait que j'étais plus chiante. Chantait... En fait, j'avais rien à faire, vu que j'avais tout le temps de...
d'observer, de tout remettre en question.
Exactement, parce que j'avais rien à faire, concrètement. Du coup, je suis partie un peu aux États-Unis, ensuite je suis revenue, et pareil, voilà. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, Fatih, tu ne vas pas rester à ne rien faire, c'est important d'avoir un rythme. Du coup, j'ai commencé à bosser comme hôtesse d'accueil dans une entreprise, un gros cabinet de conseil qui s'appelle Soprasteria. Et du coup, j'étais hôtesse d'accueil à la présidence du groupe, quoi. Mmh. Du coup, ça me permettait, parce que être hôtesse d'accueil, ça me permet d'avoir, en gros, à part dire bonjour, à apporter ouvrir, à recevoir les invités, etc. J'ai toute la journée devant mon ordinateur et je peux postuler un maximum. Et puis aussi, j'ai pu me faire des connexions avec les personnes, les directeurs RSE qui bossaient là-bas, le président du groupe, etc. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre et j'ai été recrutée dans une association qui s'appelait à l'époque Don Solidaire. Et cette asso, c'est une asso qui permet, bon, qui s'appelle toujours Don Solidaire, qui permet de faire du don non alimentaire vers d'autres associations. Ça veut dire que, par exemple, tous les invendus de Monoprix, Galeries Lafayette ou autres, ils les récupèrent et puis ils les revendent à des prix symboliques auprès d'autres associations qui les mettront ensuite à la disposition de leurs bénéficiaires. Donc, c'est une entreprise c'est une association qui évolue uniquement sur le territoire français et qui a pour vocation de donner accès à ces dons non alimentaires aux plus démunis. Donc, il y a un impact, hein, il est certain. Mmh. Sauf que cet impact, il m'éloignait totalement de ma vision à moi, qui est de participer au développement économique du Cameroun et de l'Afrique dans son ensemble. Du coup, je suis restée un mois et demi et je suis partie. Et je suis partie pour rejoindre Bondinov. Moi, j'étais déjà en contact avec Bondinov avant, lorsque je travaillais chez Orange. Il y avait un poste qui était ouvert et on m'a appelée pour me proposer ce poste-là, donc de chef de projet incubation chez Bondinov. Et j'ai saisi l'opportunité directement parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans ce que j'étais en train de faire. Bien qu'il y avait un impact, ce n'était pas mon combat à moi. Et c'est pour ça que c'est important de dire qu'on ne peut pas avoir tous les combats. Là, il y en a un en l'occurrence. Donc, le don solidaire, c'est forcément une association. Donc, il y a un impact qui est certain. Mais ce n'est pas le combat que moi, j'ai choisi. Et ce n'est pas en ligne avec la vision que moi, j'avais de ma carrière professionnelle et de ma vie en général. Donc voilà, toujours être guidée par cette même vision qui est d'avoir un impact fort et positif sur le continent africain.
Ok, ça marche. En fait, j'entends vraiment plusieurs choses dans ce que tu dis. La première, c'est que quelque part, en fait, il ne faut pas se fermer aux opportunités. Il faut s'ouvrir le champ des possibles tout en gardant ses objectifs et sa vision claire pour ne pas complètement se laisser détourner ou dépasser. Et ça m'amène aussi à te demander à quel moment, en fait, tu arrives à identifier que c'est le bon moment de passer à une nouvelle étape.
Bah ça, c'est super complexe parce que nous, on est une nouvelle génération où on ne reste pas très longtemps dans les mêmes entreprises, où on évolue assez rapidement. Et je fais le parallèle avec ma maman, par exemple, qui a bossé pendant 17 ans chez American Express, par exemple, et qui ne comprenait pas que je veux quitter Bondinov pour TapTapSend. Et ça, c'est un débat que j'ai eu avec ma mère parce que j'ai fait 2 ans et demi chez Bondinov. Et puis, j'étais très épanouie, ça se passait très bien. Donc, ce n'est pas parce que je ne me sentais plus bien ou parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Je pense que j'avais encore possibilité de développer beaucoup de choses chez Bondinov. Mais c'est juste que l'opportunité, pour moi, était encore plus grande chez TapTapSend. Et puis, ça ouvrait aussi une nouvelle voie. Chez Bondinov, par exemple, j'accompagnais des entrepreneurs. Je développais des programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Mais je n'étais pas dans la casquette de l'entrepreneur. Je n'ai jamais été de l'autre côté. Ça veut dire que je n'ai jamais eu à faire les mêmes risques, à avoir la même rigueur. On avait aussi une rigueur de travail, puisqu'en tant qu'incubateur, on bosse un peu comme une start-up. Mais là, en fait, le fait d'avoir l'enjeu qui est un peu différent, avec le challenge aussi commercial, économique, qu'on n'a pas forcément sur un incubateur qui est aussi back-upé par des financements de gros fonds comme l'AFD, etc. C'était un peu différent que d'avoir à aller vendre un produit actuellement. Donc, du coup, pour moi, j'étais aussi intéressée par ce côté-là du business que je n'avais pas la chance d'avoir vu encore dans mes expériences précédentes. C'est une start-up, il y avait tout à faire. Je me suis dit, en fait, si tu réussis ce challenge-là, Fatih, demain, tu pourras recommencer avec d'autres types d'entreprises et tu auras une expertise qui est différente. Donc l'opportunité, pour moi, elle était trop belle pour que je ne la saisisse pas.
Complètement. Et du coup, face à toutes ces opportunités, c'est quoi les atouts en fait que t'as mis en avant ?
Je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une certaine cohérence dans ce que j'ai été amenée à faire. C'est-à-dire que mon premier stage, donc, c'était à l'ambassade du Cameroun. Ensuite, j'ai eu un deuxième stage dans un think tank qui s'appelle l'Institut Choiseul, où on était amené à... ils faisaient un classement des leaders africains de moins de 40 ans. Ils font la même pour les leaders français économiques de moins de 40 ans. Et du coup, lorsque j'ai fait ce classement-là, j'étais amenée à voir à peu près quels sont les gros secteurs d'activité. J'ai une bonne photographie de ce qui se fait en termes économiques sur le continent africain. Et puis, j'ai rencontré aussi ces leaders qui sont venus en France. On allait rencontrer, par exemple... Manuel Valls, à l'époque, était Premier ministre, Emmanuel Macron, qui était ministre du budget à l'époque. Et j'étais avec ces leaders africains qui, pour moi, sont peut-être les futurs chefs d'État de la plupart de leur pays. Et ça m'a aussi beaucoup boostée parce que je me suis dit, c'est possible. En fait, à l'échelle africaine, nous aussi, on peut construire et faire des choses. Et puis, j'ai aussi ensuite été amenée à faire une sorte de cartographie des incubateurs africains. À l'époque, il y en avait très peu. Et c'est comme ça que j'ai compris ce qu'était l'entrepreneuriat, l'innovation, en lien avec l'Afrique, et qu'il y avait un potentiel énorme. Et donc, c'est ça qui m'amène à aller chez Orange. Puis ensuite, c'est ça qui m'amène d'Orange à aller chez Bondinov. Et c'est Bondinov qui m'amène ensuite à aller chez TapTapSen. Du coup, pour moi, il y a toujours eu cette même cohérence dans mes différentes activités. Il y a aussi le lien et l'intelligence émotionnelle. Et je pense que c'est très important parce que j'ai rencontré des gens à chaque fois. Ça a été le fruit de rencontres dans toutes mes différentes expériences. Et ces personnes-là, aujourd'hui, à l'échelle de TapTapSen, je travaille encore avec elles. Je travaille encore avec les gens que j'ai rencontrés chez Choiseul lorsque j'étais en stage il y a 7 ans. Donc, je travaille encore avec ces mêmes personnes. Donc, pour moi, il y a une vraie cohérence. Il y a cette cohérence dans les différentes expériences, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle et le relationnel, le fait de garder du lien, de garder le contact avec les gens et de toujours quitter une expérience professionnelle en étant apprécié et aussi en bon terme avec ses précédents managers, collaborateurs, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est crucial, surtout lorsqu'on évolue dans un écosystème qui est très petit et où effectivement la recommandation est cruciale. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient importantes et je pense que c'est des choses qui ont aussi permis d'être de véritables atouts dans mes différentes expériences. Et puis, au fil de l'eau, à force de travailler sur cet écosystème et de travailler aussi sur ces différents sujets, on ne devient pas des experts, mais on développe une certaine expertise dans ce domaine-là, qui est donc l'innovation, l'entrepreneuriat en lien avec l'Afrique. Et puis aussi, je pense que Bondinov, c'était une école incroyable, puisque j'étais amenée à travailler avec tout type de partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels comme les gros bailleurs de fonds, les startups, les associations qui accompagnent ces mêmes startups, les financeurs, les VC, etc. Et ça m'a donné une bonne photographie de ce que c'est que l'entrepreneuriat, de ce que c'est qu'entreprendre. Et aujourd'hui, en étant chez TapTapSen, je le vis au quotidien.
Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots trouver l'opportunité chez TapTapSen. Comment ça s'est passé?
Ok. Bah, c'est grâce à LinkedIn. C'était en plein confinement. En plein confinement, et j'ai reçu un petit message d'une chargée de recrutement, d'un cabinet de recrutement en anglais, en me disant, voilà, votre experte, on aimerait faire un entretien avec vous. Et moi, je ne connaissais pas TapTapSen à l'époque. Et puis, j'ai eu le premier call avec cette... elle s'appelle Émilie. Et on l'a recrutée chez TapTapSen après, d'ailleurs. Donc, cette personne qui bossait dans ce cabinet de recrutement. Et elle m'explique un peu ce que c'est, ce qu'ils font, ce qu'ils aimeraient, etc. Et qu'ils aimeraient donc développer l'Afrique, et particulièrement le Cameroun, l'Afrique centrale, etc. Et elle me dit le nom de la boîte. Et je n'arrivais pas à retenir. Pour moi, ce n'était pas cohérent, TapTapSen comme nom. Enfin, bref. Et du coup, bref, je finis par retenir le nom et je vais voir mon mari et je lui explique, voilà, j'ai eu un appel, voilà. Et pour lui donner un exemple pour qu'il puisse comprendre quel type d'entreprise c'était, je lui dis, mais qu'est-ce que tu utilises déjà pour envoyer de l'argent au Sénégal? Et il me répond, TapTapSend. Et là, je lui dis, c'est un signe alors.
C'est complètement...
Parce qu'en fait, il utilisait déjà TapTapSend depuis plus d'un an. Et c'est sa maman, donc ma belle-mère, qui lui avait recommandé l'application. Ma belle-mère qui n'est pas du tout tech savvy, etc. Donc si elle, elle réussit à utiliser l'application et elle le recommande à ses enfants et à son entourage, c'est qu'il y a vraiment une plus-value à utiliser cette application-là et que je saurais comment la vendre. Et c'est comme ça que j'ai rejoint TapTapSend après plus de 7 entretiens, parce que c'était comme si j'entrais à la...
Ah oui.
À la CEA. Mais ouais, voilà.
Ok, très bien. Aujourd'hui, du coup, tu occupes le poste de responsable développement Cameroun chez TapTapSend. Ça consiste en quoi et c'est quoi ta journée type, en fait, de directrice du développement
Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. Quand j'ai rejoint TapTapSend, c'était pour lancer plusieurs pays. Donc, je ne m'occupe pas uniquement du Cameroun. J'ai aujourd'hui le titre de cofondatrice Cameroun parce que lorsqu'on a développé l'entité camerounaise et d'autres entités africaines, le Michael, le CEO de TapTapSend, avait à cœur d'intégrer et de reconnaître aussi les personnes qui ont permis de contribuer au développement et à la réussite de ces corridors-là. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, donc, je suis cofondatrice de TapTapSend Cameroun, que j'ai des parts dans TapTapSend et que je suis directrice générale de l'entité camerounaise. Ensuite, j'ai aussi lancé et participé au développement de plusieurs autres pays, comme le Mali, que j'avais sous mon management, comme Madagascar, que j'avais aussi sous mon management, qui aujourd'hui sont des gros pays chez TapTapSend et je suis très fière du développement de ces pays-là. Je ne m'en occupe plus parce qu'on a fait une restructuration par région. Donc maintenant, comme le Cameroun était le pays le plus important sur lequel je travaillais, je m'occupe de la région Afrique centrale et je manage aussi donc les deux Congos, la RDC et le Congo Brazzaville. Pendant près de 1 an et demi, j'ai été toute seule sur le Cameroun. Et puis, j'avais une personne qui était dans mon équipe pour le Mali, une personne pour Madagascar et une personne pour le Congo. On a réussi à lever des fonds il y a 1 an et demi, ce qui nous a permis aussi de pouvoir recruter. Donc aujourd'hui, j'ai une super équipe sur le Cameroun ça m'a changé la vie, faut dire la vérité. Parce qu'avant, chez TapTapSend Cameroun, je m'occupais de tout. Quand je dis tout, c'est j'étais toute seule. Donc, que ce soit le produit en lui-même, le rapport avec les différents partenaires, que ce soit gérer le day-to-day en termes de marketing et d'action, que ce soit avec les influenceurs, que ce soit avec les ambassadeurs, que ce soit faire des visuels. Donc, les visuels, je les faisais moi-même. Que ce soit... on a un customer services, mais bon, voilà, quand les gens te plaignent et qu'ils ont mon numéro, du coup, tout le monde m'appelle. Donc, il fallait que je gère les problèmes, différents problèmes techniques qu'on peut rencontrer avec TapTapSend, participer aux événements, sponsoriser les événements, faire la facturation de tout ça. Enfin, tout, je faisais tout, toute seule. Et maintenant, j'ai une équipe, donc c'est beaucoup mieux. Donc, ça nous permet de faire plus de choses. Et puis, non seulement, c'est pas que TapTapSend n'est pas seulement en France. Donc, ça veut dire qu'il fallait faire ça pour la France, faire ça pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. Et puis ensuite, on a lancé les États-Unis. Donc, ensuite, il fallait développer TapTapSend aux États-Unis. Et donc, c'est comme si on lançait un nouveau pays, en fait. Donc voilà. Et puis maintenant, on a le Cameroun. J'ai une équipe pour le Cameroun. Mais pour être totalement transparente, j'ai aucune journée qui se ressemble. Par exemple, ma journée d'hier, j'étais en tournage avec Mokobé. Le matin, ensuite l'après-midi, j'avais Ivana Ononino, qui est une de mes influenceuses, qui est passée pour qu'on bosse sur qu'est-ce qu'on va faire dans l'année avec elle. Il faut savoir que nous, quand on travaille avec des influenceurs, on travaille avec eux vraiment en partenariat. Donc, ça veut dire qu'on demande quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs envies. Et on voit comment TapTapSend peut s'intégrer là-dedans pour les accompagner à la fois dans leurs différentes initiatives et pour aussi avoir une image de marque qui soit différente des différents partenaires avec lesquels ils travaillent. Donc, on a bossé sur ça. Ensuite, il y a un gros projet sur lequel on est actuellement, qui est un gros événement qui aura lieu en mai, sur lequel on a travaillé avec toutes mes équipes. Ensuite, j'ai eu le soir une réunion qui a duré très longtemps pour un partenariat avec une autre personnalité camerounaise influente qui s'appelle Paola Audrey, par exemple. Donc, du coup, voilà, on a eu plein de réunions dans ce type. Et puis, le soir, très tard le soir, j'avais une réunion avec mes ambassadeurs aux États-Unis. Donc là, c'était la journée d'hier. La journée d'aujourd'hui, elle est totalement différente. Je voyage beaucoup aussi, donc chaque journée est différente.
Très intéressant, Fatima. Et en fait, tout ça m'emmène aussi à te demander, parce que tu as beaucoup parlé de tes équipes, du fait que tu as quasiment tout fait toute seule pendant un très, très long moment et qu'aujourd'hui, tu es entourée d'équipes qui te permettent voilà, d'être beaucoup plus performante et en tout cas de te concentrer aussi sur... sur certaines activités. Ça me fait penser que récemment, tu as dit dans une interview, au lieu d'investir sur des publicités en ligne, j'ai investi sur un petit budget, j'ai investi tout mon petit budget sur des personnes.
Ouais.
Et oui, est-ce que tu peux... Ouais. J'ai trouvé ça très fort, en fait. Et...
Bah, en fait, quand on a lancé TapTapSend, quand j'ai dû lancer TapTapSend, j'avais des micro-budgets. Enfin, quand je disais micro-budget, bon, on était une start-up, il y avait d'autres pays, il faut qu'on se sépare les budgets. Et par exemple, sur le Cameroun, j'avais des tout petits budgets. Et il fallait quand même avoir un impact, il fallait quand même toucher la diaspora. Alors, plutôt que faire des choses en ligne, on a préféré se rapprocher des personnes qui font la diaspora. Et par les personnes qui font la diaspora, je parle essentiellement pas des influenceurs, des personnes qui sont très suivies sur les réseaux sociaux, mais des personnes, des personnages clés, des personnes qui ont de l'influence au sein même de cette diaspora, qui sont pas des personnes suivies sur les réseaux, mais qui ont énormément de connexions. Ça peut être un coiffeur, ça peut être un restaurateur, ça peut être une personne qui est là depuis des années et qui a aidé beaucoup de personnes de sa communauté à venir en France, qui les accompagne au quotidien. Et tous ces gens-là, c'est nos ambassadeurs, c'est notre armée d'ambassadeurs. Et c'est vers eux d'abord que je me suis tournée. Donc, on connaît toujours une personne qui est ultra connectée dans son réseau. Et ben, c'est ces personnes très connectées qui m'ont aidée déjà à tester l'application, à la recommander autour d'eux, à faire le feedback, à faire le customer service aussi parfois. Hein, quand il y avait des problèmes et des issues, s'ils ont ramené 10 personnes, les 10 personnes, c'est vers eux qu'ils vont se tourner. Ces gens-là, ils nous ont beaucoup aidés aussi à ajuster le produit. Au début, TapTapSend, on n'était que vers MTN. Il manquait Orange Money qui est un des gros leaders sur le Cameroun. Donc, toutes ces personnes-là, ces ambassadeurs-là, c'est eux qui nous ont aidés. Donc, c'est des vrais gens. C'est pas, j'ai pas mis de l'argent, j'ai pas fait du training en ligne pour avoir des utilisateurs. Ce sont des vrais gens qui ramenaient des vrais gens, donc de leur réseau, des gens qu'on peut rencontrer et qu'on rencontre encore au quotidien. Chaque mois, je fais au moins 3 ou 4 dîners avec des utilisateurs partout dans les pays où on peut envoyer pour rencontrer nos utilisateurs physiquement. Et je pense que c'est important. Puis après, on a travaillé avec les influenceurs. Alors là, forcément, on touche beaucoup plus de monde. Mais pareil, ce sont aussi des vrais gens. Et puis ensuite, on s'est dit, attends, on est une entreprise qui est une entreprise de proximité, on est proche des gens, et c'est ce que les gens apprécient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être le véritable partenaire et allié de la diaspora ? Maintenant qu'on a plus de budget, on a accompagné, sponsorisé les initiatives portées par les membres de la diaspora. Ce qui fait qu'il n'y avait pas une fête camerounaise où TapTapSend n'était pas. Il n'y avait pas un forum où TapTapSend n'était pas présent. Il n'y avait pas une fête communautaire de telle chefferie où TapTapSend n'était pas là. On était présent dans tous les événements et dans toutes les initiatives clés de la diaspora camerounaise. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes ont, dû à cette proximité, à cette communication très, très, très proche du Cameroun, pensez tout de suite que TapTapSend était une entreprise, TapTapSend Group, une entreprise camerounaise. Ce sentiment, il naît du fait qu'on est proche de nos utilisateurs.
Non, mais complètement. Surtout qu'aujourd'hui, les consommateurs recherchent vraiment cette proximité, cette authenticité. Et ça transparaît clairement dans vos actions aujourd'hui. On voit aussi, du coup, que vous vous reposez beaucoup sur la diaspora. En tout cas, toi, tu crois vraiment au potentiel de la diaspora. Et à la conférence où je t'ai rencontré la semaine dernière, tu disais qu'aujourd'hui, le premier investisseur en Afrique, c'est sa diaspora. Et du coup, ça m'emmène à te demander, selon toi, comment on peut encore mobiliser davantage, structurer cette diaspora pour qu'elle soit un vrai levier pour les économies africaines ?
Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, la diaspora envoie énormément de fonds tous les jours vers l'Afrique. Il y a les fonds donc, par les moyens les plus formels, comme nous, par exemple, ou d'autres concurrents, qui peuvent être répertoriés par la Banque mondiale, par exemple, en termes de chiffres, qui représentent des sommes énormes. Et puis, il y a tous les fonds qu'on ne mesure pas. Donc oui, la diaspora, c'est le premier investisseur du continent africain. Et par investisseur, pourquoi on parle d'investissement ? Parce que peu importe l'argent qui est envoyé en Afrique, c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie africaine. Parce que beaucoup de personnes vont dire « Non, mais ils n'investissent pas, ils envoient pour aider leurs proches une journée, c'est de l'assistanat, etc. » En réalité, quand tu envoies de l'argent à ton cousin ou à ton oncle au Cameroun, cet argent-là, il le dépensera au Cameroun. Donc, c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie camerounaise. Maintenant, effectivement, on gagnerait, notamment dans la diaspora camerounaise en particulier, à être plus structuré, à co-construire plus ensemble en tant que diaspora et à commencer à penser aussi cet investissement de manière différente. Il y a d'autres diasporas africaines qui sont aussi des diasporas qui sont en France, par exemple, ou dans certains pays depuis plus longtemps, où ils sont aussi beaucoup plus nombreux, beaucoup plus structurés, et qui sont des diasporas où c'est vraiment une immigration économique. Donc, ils sont venus avec cette idée et ce besoin-là de transférer leurs fonds et leur salaire en Afrique dans le but de construire leur pays. Donc, on peut aussi gagner à prendre exemple ce type de diaspora ou aussi on peut le repenser différemment. C'est pour ça aussi qu'à côté de TapTapSen, on a lancé une association qui s'appelle Mboa Paris et on organise un gros événement le 20 mai qui a pour but déjà de réunir, de connecter tous les acteurs qui font la diaspora camerounaise. Il faut savoir que la diaspora camerounaise, c'est une diaspora qui est très qualifiée, une diaspora qui est très dynamique, qui est très entreprenante et qui crée beaucoup de valeur, que ce soit dans le pays où elle réside ou au Cameroun aussi. Et l'idée, c'est de voir comment ensemble, on peut se connecter pour faire les choses ensemble et aller encore plus loin que ce qu'on fait déjà.
Complètement. Et redis-nous la date de l'événement-là, Mboa Paris, on viendra soutenir.
Super. Bah, c'est une date aussi importante parce que elle n'est pas choisie au hasard, c'est le 20 mai, donc le 20 mai 2023. Le 20 mai, c'est la fête de l'unité camerounaise, donc c'est notre fête nationale. Et ça tombe un samedi, du coup, on a réuni tous les acteurs qui font la diaspora. Et par acteur, ce n'est pas uniquement une élite de la diaspora camerounaise. L'idée, c'est d'avoir tous ceux qui économiquement ajoutent de la valeur au Cameroun. Donc, il y aura 1000 mètres carrés de stands dédiés aux entrepreneurs de la diaspora camerounaise. Et puis ensuite, il y aura une conférence avec les grands leaders économiques et culturels de la diaspora camerounaise d'Europe. Et donc, ça aura lieu le 20 mai 2023, toute la journée. Et ça se clôture par un concert avec des artistes camerounais.
Super. En tout cas, le rendez-vous est pris. Fassimatou, la journée du 8 mars arrive. Tu ne vas pas y échapper. Enfin, j'aimerais avoir ton avis, en tout cas, déjà sur cette journée-là, durant laquelle, en fait, il y aura plein d'initiatives. Je ne sais pas si de ton côté, tu as prévu quelque chose de spécial ou pas.
Oui.
Et cette journée-là, vraiment, qui représente les droits de la femme, tous ces laïus-là autour de la femme, je voulais te demander, pour toi, quelle est ta perception aujourd'hui des rôles modèles et de la représentation ?
Alors, c'est une bonne question. Bah, le 8 mars, pour moi, c'est une journée qui est importante parce que même culturellement, au Cameroun, c'est une journée ultra importante, plus que dans beaucoup de pays. Déjà, c'est un jour férié. Alors qu'ici, c'est plus un jour comme un autre. Pour être totalement transparente, la question des droits des femmes et même le fait, les inégalités faites aux femmes, je l'ai ressenti dans ma carrière très, très tard. C'est vraiment très récent. Mmh. Ça veut dire que pendant longtemps, je ne comprenais pas, mais je ne me sentais pas directement concernée par ce combat parce que je n'avais pas l'impression que j'en étais impactée parce que parfois, on l'est sans le savoir. Aujourd'hui, avec TapTapSen et quand je me retrouve dans certaines sphères et quand j'essaie d'avoir certaines voix, notamment auprès de nos confrères de la diaspora ou lorsqu'on deal certains contrats, effectivement, il y a une différence qui est faite sur beaucoup de sujets hein, et on le ressent d'autant plus. Au-delà de ça, pourquoi je n'avais jamais le sentiment d'avoir ressenti ces inégalités, c'est que j'ai la chance d'être entourée par des femmes qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes dans ma famille et qui ont toujours eu un rôle important. Et ce rôle, il a toujours été considéré. Ce qui fait que pour moi, la voix de la femme n'a jamais été moins considérée qu'une autre voix. Et ça aussi, ça nous a... Et quand on parle de représentation, pour moi, mes rôles modèles, ce n'est pas des personnes connues. Pour le coup, c'est vraiment les femmes de mon entourage. C'est ma maman, c'est mes tantes. Toutes ces femmes-là qui m'ont montré qu'en fait, qui m'ont jamais fait sentir différente parce que j'étais une femme et qui m'ont aussi montré le pouvoir de la femme qui fédère le foyer, qui prend les grandes décisions aussi en famille. Donc du coup, pour moi, j'ai vraiment mes véritables rôles modèles, ce sont donc mes mamans. J'ai de la chance d'avoir une maman qui est ultra dynamique, ultra investie aussi dans TapTapSen pour le coup, et qui m'a toujours donc permis de ne me pas sentir différente parce que j'étais une femme ou une jeune fille. Et du coup, le champ des possibles, pour moi, il a toujours été ouvert. J'ai jamais vu ça comme quelque chose d'obstrué parce que j'étais une femme. Et je pense que ça, être un rôle de modèle, c'est ouvrir le champ des possibles pour les autres.
Vraiment un big up à nos mamans.
Ouais. Et pour le coup, pour le 8 mars, TapTapSen, on offre des pagnes du 8 mars à la diaspora. on ramène cette culture-là ici aussi.
Ah, génial. Et on peut les trouver où?
On les achète au Cameroun, du coup.
Ok, ça marche. Et du coup, par rapport à tout cela, on parle aussi beaucoup de leadership au féminin. Et est-ce que toi, tu crois au leadership, que le leadership est genré?
Je pense que chaque personne a sa propre conception, vision et expression de son propre leadership. Je ne pense pas que le leadership soit véritablement genré. Je pense que le leadership, il dépend beaucoup de notre construction personnelle, sociale, etc. Du coup, pour moi, j'ai jamais... Enfin, vraiment, cette différence de genre, je l'ai rarement appliquée professionnellement. Donc, pour moi, j'estime que mon leadership, il est propre à moi. Et j'évolue avec d'autres femmes qui, elles aussi, dirigent. Et elles ont des leaderships qui sont totalement différents et opposés aux miens. Donc, pour moi, je ne considérais pas le leadership comme genré. Après, c'est vrai aussi qu'en tant que femme, on a une appréciation du monde qui est aussi différente. Hein, et on a un rapport à l'autre qui peut aussi être différent. Mais ça aussi, parfois, j'ai rencontré d'autres femmes qui n'avaient pas du tout ce côté un peu plus rationnel, émotionnel, qui avaient capté ces émotions-là. Et pour moi, dans le fait de conclure des partenariats, des deals, dans la négociation, l'intelligence émotionnelle, c'est clé. Et pourtant, j'ai déjà vu des femmes qui n'avaient pas ce type de rapport là, donc je pourrais pas dire que c'est genré. Je pense que c'est vraiment propre à la construction de chacun.
D'accord. J'aimerais également qu'on parle un petit peu de tes engagements, notamment de tes engagements auprès des plus jeunes, de tout ce qui va concerner l'éducation, la transmission. Je sais que tu es engagée notamment au niveau de Sciences Po. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et pourquoi tu as choisi de t'investir dans cette voie-là également?
Alors, moi, j'ai toujours voulu enseigner. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Petite, j'ai toujours joué à la maîtresse très longtemps. Donc, j'ai toujours voulu transmettre et puis j'ai toujours voulu vraiment m'investir de ce côté-là. J'ai tendance à dire à mes élèves que, par exemple, je ne crois pas du tout en l'aide humanitaire telle que c'est pensé actuellement. Mais le seul type d'aide au développement pour lequel je crois, c'est en l'éducation. Donc, si vous mettez des fonds sur l'éducation, je serai la première à le défendre. Pourquoi? Parce que tout ce que tu enseignes, ça se multiplie. Et pour moi, l'enseignement, c'est vraiment ça, c'est multiplier la connaissance, c'est le partage, c'est la transmission. Et chaque fois que tu transmets quelque chose, tu ne perds pas ce que tu as transmis. En revanche, la personne pourra aussi le transmettre à d'autres. Du coup, pour moi, l'éducation, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis maintenant, à mon échelle, c'est vraiment une petite échelle aujourd'hui. Hein, j'enseigne à côté de mes activités. J'enseigne à Sciences Po l'innovation en Afrique. Et puis, j'enseigne dans 3A, l'école de commerce où j'étais, le management de projet. Et ce qui me touche particulièrement, c'est l'avant-après. Lorsque je travaille avec ces étudiants, ils ont une vision parfois du continent africain qui est très biaisée. Et puis, à la fin de notre cursus ensemble, ils ont une vision du continent totalement différente, ouverte vers le monde, le continent des possibles. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre. Je pense que nous, en tant qu'enfants de la diaspora, on a aussi quelque part un devoir. Et on est aussi les ambassadeurs de nos pays respectifs. Et c'est important aussi de montrer les véritables couleurs, les véritables opportunités que représente l'Afrique, bien qu'il y ait énormément de freins et de limites. Et c'est d'abord un continent d'opportunités. Et ça donne aussi une vision différente. C'est aussi une manière de rebrander aussi plus justement le continent africain que d'enseigner auprès de jeunes étudiants ici en France.
Bravo en tout cas pour cette démarche, pour cette initiative. Elle est vraiment très, très louable. Je vois que le temps passe et on arrive déjà malheureusement à la fin de l'échange. Je termine toujours en posant une question que j'appelle la question Joker. Donc, tu auras le choix, Fassimatou, entre plusieurs options, soit mantra ou citation, soit œuvre d'art ou personnage. Que souhaites-tu
Mantra ou citation.
Bah, go, tu peux nous partager quel est le mantra ou la citation, en tout cas, qui t'inspire, que tu as envie de partager avec nous.
Ok, bah alors moi, c'est un mantra qui est plus sur ma vie personnelle, hein, qui, donc je vous le cite, c'est un proverbe persan qui dit « Sois comme la fleur qui donne son parfum même à la main qui l'écrase ». Et c'est mon mantra dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que tu prendras des coups. Il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas que tu réussisses. Il y a beaucoup d'obstacles que tu rencontreras sur ton passage. Mais l'essentiel, c'est de toujours partager ta lumière, partager ta connaissance et du coup, partager ton parfum, comme le dit dans le mantra. Pour moi, c'est important de ne pas changer qui on est parce que le monde peut être difficile et de garder toujours cette même vision qui nous guide et de garder, d'être toujours fidèle à soi, à son identité, à sa personne, à sa culture, à ses valeurs, peu importe les obstacles qu'on peut rencontrer. Donc effectivement, pour moi, c'est mon mantra de tous les jours. Il y a des fois, j'ai envie de changer d'identité, de personnalité quand je fais face à certaines difficultés, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde personnel, mais je n'oublie pas qui je suis et si je suis une fleur, alors je continuerai de diffuser de belles odeurs.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est une jolie citation avec un bel état d'esprit derrière. Merci pour ce partage. Et je voulais également te demander, avant qu'on se quitte, c'est que voilà, t'es, avec ton parcours aujourd'hui, t'es une belle figure de la diaspora africaine, une belle inspiration pour de nombreuses femmes et même au-delà de la communauté des femmes. Et du coup, en fait, je voulais te demander, pour toi, c'est quoi la réussite et notamment la réussite professionnelle?
Bah pour moi, derrière le mot réussite, je mets beaucoup de choses. Pour moi, réussir, c'est d'être au plus proche de sa vision. Pour moi, je ne considère pas qu'il y a un moment où on a réussi. Pour moi, je considère qu'on réussit un peu tous les jours. Et si à chaque fois, ce que je fais est en ligne avec mes visions, ma vision de départ, alors en ce moment, je réussis. Et je n'ai pas un point de chute pour me dire qu'est-ce que c'est que réussir. Pour moi, réussir, c'est être heureux au quotidien. Pour moi, réussir, c'est quelque part apporter sa contribution au monde, rendre meilleure la vie d'au moins une personne autour de toi. Pour moi, c'est déjà réussir. Alors si dans ma vie de tous les jours, j'arrive à faire ça à mon échelle, je suis déjà en train de réussir. Donc, je n'ai pas un moment où je me dirais « waouh, j'ai réussi ». Pour moi, réussir, c'est des petites réussites au quotidien et c'est améliorer et contribuer à améliorer la vie des gens autour de soi.
Ok, très clair. Et enfin, et ça nous permettra de terminer notre bel échange, est-ce que tu pourrais compléter cette phrase, s'il te plaît ? Tu n'aurais pas été là si...
Je n'aurais pas été là si mes parents ne s'étaient pas rencontrés. Voilà, je n'aurais pas été là si je n'avais pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont... permis d'avoir la confiance que j'ai en moi aujourd'hui si je n'avais pas eu la chance. Vraiment, ça repose beaucoup sur mes parents. Et plus je grandis, plus je mesure la chance que c'est d'avoir des parents qui croient en soi, qui croient en toi, qui investissent dans ton avenir, qui font en sorte que tu t'aimes et que tu apprennes à t'aimer et que tu n'aies jamais à douter de l'amour que tu portes pour toi-même. Et ça, c'est important. J'ai vraiment été nourrie et je suis née dans une famille pleine d'amour. Et je suis hyper reconnaissante pour ça aujourd'hui parce qu'autour de moi, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et la confiance en soi naît beaucoup de l'amour qu'on reçoit petit. Donc voilà, je ne serais pas là si je n'avais pas eu l'amour que j'ai eu de mes parents.
Merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on poursuive encore plus longtemps. Vraiment très intéressant, Fatimatou. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ce partage.
Merci beaucoup, Vanessa.
Et j'espère que nos auditeurs trouveront l'épisode intéressant et utile. En tout cas, moi, je ressors reboostée, plein d'énergie de cet échange. Et j'espère qu'on aura l'opportunité de le continuer peut-être sous une autre forme.
Avec plaisir, c'était super, j'ai adoré.
Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks. Je serai ravie de vous répondre sur les réseaux du podcast et d'échanger avec vous sur votre projet professionnel. Prenez soin de vous. À bientôt, Fatimatou.
À bientôt, Vanessa. Merci encore.
Merci à toi.